Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Combat entre armées et rebelles tigréens en Éthiopie. Élection municipale à haut risque pour l'ANC en Afrique du Sud. Conférence sur le climat à Glasgow, les dirigeants du monde exhortés à sauver l'humanité. Élection au Japon, la coalition gouvernementale conserve une large majorité. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les combats font rage entre forces éthiopiennes et rebelles tigréens autour de la ville de Kombolcha. On racontait aujourd'hui des habitants au lendemain de l'annonce par les rebelles de la prise de ce carrefour stratégique du nord de l'Éthiopie. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Les combattants du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, ont affirmé dimanche s'être emparés de Kombolcha après avoir revendiqué la veille la prise de la ville voisine de Dessi. Deux affirmations démenties par le gouvernement. Ces villes de la région de la Mara, au sud du Tigré, sont situées à un carrefour routier stratégique à environ 400 km au nord de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. L'armée éthiopienne a nié toute frappe aérienne sur Kombolcha durant la nuit, mais le gouvernement a accusé le TPLF d'avoir exécuté sommairement plus de 100 jeunes habitants de Kombolcha sans fournir plus de détails. Si les prises de ces localités se confirmaient, cela marquerait une nouvelle étape majeure dans ce conflit qui dure depuis un an. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit alarmé par la situation, appelant sur Twitter à un arrêt des combats et à des négociations de cessez-le-feu sans conditions préalables. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell a également exhorté les belligérants à cesser les combats, à lever le blocus de l'aide humanitaire et à s'abstenir de tout discours de haine. Il a dit souhaiter des négociations sous l'égide du haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo.
Plus de 26 millions de Sud-Africains étaient appelés à voter ce lundi dans un scrutin municipal à l'issue incertaine pour l'ANC. Le parti de Nelson Mandela pourrait, pour la première fois, passer sous la barre des 50% des voix. Les explications de Ginny Kapumbu-Villa.
Malgré l'optimisme du président Ramaphosa, l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid il y a 27 ans est en perte de vitesse. Les sondages suggèrent qu'une majorité d'électeurs pourrait pour la première fois s'en détourner. Plusieurs de ses dirigeants, dont l'ex-président Jacob Zuma, ont de sérieux démêlés avec la justice alors que le chômage atteint des records à plus de 30%. Selon certains électeurs, les dirigeants de l'ANC n'ont pas tenu leurs engagements et ont fait trop de promesses vides. En face, l'opposition reste divisée. D'un côté, l'Alliance démocratique, DA, souffre d'être perçue comme un parti de blanc. De l'autre, le Parti radical des combattants pour la liberté économique, EFF, ainsi qu'une multitude de candidats indépendants, tentent de prendre avantage de la situation.
En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé la mise à la retraite d'un millier de soldats. Cette retraite ne doit être en aucun cas considérée comme une punition, mais comme un droit, a souligné hier le colonel Doumbouya dans un discours. Aucune information supplémentaire n'a été donnée. Cette annonce fait suite à la mise à la retraite forcée de 44 généraux et amiraux le 12 octobre dernier, dans ce qui ressemblait à une purge des hauts gradés de l'armée. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, le général Saint-Poré, a lancé ce lundi à Ouagadougou un appel à un sursaut patriotique à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la création de l'armée burkinabé. Il a lancé également un appel à œuvrer pour la démobilisation des combattants enrôlés et pour assécher les sources de recrutement des groupes terroristes. Au Nigeria, un immeuble de 25 étages en construction s'est effondré aujourd'hui à Lagos, la capitale économique, faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés. Le bilan risque de s'alourdir car des dizaines d'ouvriers sont toujours coincés sous les décombres. Conflit au Soudan, les dirigeants civils arrêtés lors du coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan sont toujours introuvables, a déclaré leur avocat Kamal al-Jizouli, qui s'inquiète de leur santé et de possibles suites judiciaires. Sans lieu de détention connu, ni chef d'inculpation ou enquêteur nommé publiquement, ces détenus sont maintenant dans la pire situation légale possible, prévient Maître Jizouli, qui n'a pas précisé le nombre de dirigeants détenus. Enfin, la Somalie entame un nouveau cycle électoral après de multiples retards. Le pays a commencé à élire les représentants de la chambre basse du Parlement, un processus qui doit déboucher sur la désignation d'un nouveau président.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture de la COP26 à Glasgow, le secrétaire général de l'ONU appelle les décideurs à agir maintenant pour sauver l'humanité des catastrophiques impacts du réchauffement. Le président américain Joe Biden, lui, a mis l'accent sur les opportunités économiques dans la lutte contre le réchauffement climatique. Abdourahman Dia.
La lutte contre le changement climatique, une opportunité incroyable pour l'économie, a lancé Joe Biden à la centaine de dirigeants du monde venus assister à l'ouverture du sommet sur le climat. Il a regretté l'absence d'engagement de la Chine, principal pollueur mondial. Il est temps de dire assez, a déclaré pour sa part le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Assez de brutaliser la biodiversité, assez de traiter la nature comme des toilettes, a-t-il martelé, dénonçant une addiction aux énergies fossiles. Il a mis en garde contre un échec de cette COP26, 6 ans après l'accord de Paris sur le climat. Les engagements actuels des quelques 200 signataires de l'accord de Paris, s'ils étaient respectés, mèneraient à un réchauffement de 2,7 degrés Celsius selon l'ONU. L'autre sujet brûlant qui doit être débattu à Glasgow, c'est la promesse toujours non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 leur aide climat aux pays en développement.
Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a appelé les pays les plus gros émetteurs de CO2 en retard sur leurs engagements à rehausser leurs ambitions dans les 15 jours de la COP26, en allusion à la Russie et à la Chine, qu'il a déjà cité dimanche. Au Japon, la coalition gouvernementale a réussi à conserver une large majorité, perdant moins de sièges que prévu lors des législatives de dimanche. Ces élections constituaient un premier test majeur pour le Premier ministre Fumio Kishida, qui a déclaré victoire. Les détails avec Rosine Munezero.
Le Premier ministre Fumio Kishida, 64 ans, a estimé que la bataille avait été très difficile, mais que les électeurs avaient démontré qu'ils souhaitaient un gouvernement stable de la majorité sortante pour façonner l'avenir du pays. Son parti libéral démocrate, le PLD, et son partenaire, le Komeito du centre droit, ont remporté 293 des 465 sièges à la chambre basse du Parlement, dont 261 pour le PLD seul. Plusieurs habitants de Tokyo ont déclaré lundi avoir été surpris par ces résultats. Kimio Okada, un retraité de 72 ans, pensait que le PLD allait perdre plus de sièges, estimant qu'il n'y a pas d'autres partis politiques en qui avoir confiance et qui n'ont donc pas d'autre choix. M. Kishida a fait de la lutte contre le COVID-19 sa priorité numéro un et veut également combattre les inégalités sociales, mais avec des mesures encore floues. L'été prochain, il devra faire face à une élection à la Chambre haute du Parlement, qui, selon le quotidien économique Nikkei, sera un test de ce qu'il aura accompli d'ici là. M. Kishida devrait quitter le Japon mardi pour son premier déplacement à l'étranger, direction Glasgow, en Écosse, au sommet qui vient de s'ouvrir sur le climat de la COP26.
Le point sur la lutte contre le coronavirus dans le monde. Le Kremlin s'est dit préoccupé ce lundi concernant la surcharge de travail des médecins traitant les malades du Covid en Russie, au moment même où le pays le plus endeuillé d'Europe a décrété une semaine chômée pour enrayer la propagation du virus. Après une baisse des contaminations, Israël a également rouvert ce lundi ses frontières aux voyageurs vaccinés. L'Indonésie est le premier pays à autoriser le vaccin anti-Covid de l'entreprise américaine Novavax. Ce vaccin utilise une technologie différente des vaccins déjà sur le marché. C'est un vaccin qui déclenche une réponse immunitaire sans virus. il peut être stocké à une température entre 2 et 8 degrés, ce qui pourra faciliter sa distribution, notamment dans les pays moins développés. Par ailleurs, le président américain Joe Biden a été testé négatif au coronavirus, a indiqué la présidence américaine, peu après l'annonce de la contamination de la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, les habitants de la région pétrolifère de Jacquesville dénoncent la gestion jugée opaque de l'exploitation du pétrole alors qu'un troisième oléoduc est en train d'être achevé. Ils se disent marginalisés et veulent désormais bénéficier des retombées de l'exploitation de l'or noir. Le Conseil pétrole-gaz affirme ne pas recevoir d'enveloppe pétrolière pour réaliser les projets communautaires, mais il évoque la construction de logements, marchés, centres de santé, châteaux d'eau et écoles pour 800 millions de francs CFA. Le Togo a reçu l'appui d'environ 68 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour le projet régional du corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey. Ce projet contribuera au développement des relations économiques du Nigeria, du Burkina et du Togo. Il facilitera aussi la circulation des biens et des services et va accélérer le développement des trois pays, facilitant l'intégration régionale. Pour terminer, la Zambie a dévoilé son plan de rétablissement de stabilité financière, présentant un nouveau budget de 8,5 milliards d'euros, parallèlement à des discussions avec les bailleurs internationaux sur la dette qui la paralyse. Les autorités ont demandé une restructuration de la dette avec le FMI. Une fois le soutien du FMI obtenu, le gouvernement va essayer de restructurer ses dettes d'ici mars. Sinon, les dettes dont nous sommes redevables vont étrangler cette nation et la mettre à l'arrêt, a indiqué le ministère des Finances.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonjour à tous. On connaît les oppositions de l'ultime étape avant la phase de poule de la Coupe de la CAF. La Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort du tour de cadrage. Après son élimination surprise en Ligue des Champions par les Sud-Africains d'AmaZulu et donc reversé en Coupe CAF, le tout-puissant Mazembe fera encore face à un autre club sud-africain, Marumo Gallant FC. Les autres Congolais de l'AS Maniema Union héritent des Égyptiens du FC Pyramide. Le DC Motoma Pembe se frottera à l'US Gendarmerie Nationale du Niger. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa croisent les Angolais du GB Interclub. À suivre aussi, Coton Sport de Garoua, FC Noir du Bourg de la Mauritanie. Le stade malien devra attendre que la CAF décide de l'issue du match Al-Ali Tripoli, Biachara United pour connaître son adversaire. Les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane jouent les Rwandais d'APR FC. Les matchs allés sont prévus pour le 28 novembre et ce retour le 5 décembre. Les 16 qualifiés joueront la phase de groupe de la Coupe CAF. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré qu'Eden Hazard est apte à jouer mais qu'il lui préférait pour le moment d'autres joueurs. Dans le 11 de départ madrilène, Eden Hazard est sorti en fin de rencontre lors de la demi-finale de Ligue des Nations le 7 octobre dernier contre la France, perdu 3-2, touché à la cuisse. Finalement, rapidement de retour, Vinicius Junior et Rodrigo lui sont cependant préférés. Les deux joueurs étaient titulaires lors de la victoire madrilène 2-1 à Barcelone dimanche, tandis qu'Eden Hazard s'est assis sur le banc, arrivé au Real Madrid en provenance de Chelsea pour 100 millions d'euros. Il y a 2 ans, le Belge a connu 2 années difficiles, gâchées par de nombreuses blessures. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour aider les athlètes afghans à être relogés dans des pays tiers après le retour au pouvoir des talibans en août en Afghanistan, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Plus de 150 athlètes afghans, parmi lesquels 50 footballeuses, ont été évacuées courant octobre vers le Qatar avec leurs familles en coordination avec la FIFA. Mais des centaines d'athlètes se trouvent toujours en Afghanistan et ne demandent qu'à partir. Je demande vraiment à tous les gouvernements en Europe et dans le reste du monde de nous aider à obtenir un nouveau foyer pour ceux qui ont déjà été évacués, a déclaré M. Infantino. Joyce Cook, responsable des questions sociales et de l'éducation à la FIFA, a indiqué que 158 personnes de la communauté sportive et leurs familles quitteraient Doha pour se rendre en Albanie jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit trouvée. Elles font partie d'une liste de 545 personnes qui cherchent à partir, a-t-elle précisé.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. La conférence de Glasgow 2021 sur les changements climatiques, dénommée COP26, s'est ouverte ce dimanche avec l'espoir d'un engagement plus concret pour la réduction de gaz à effet de serre. Au Sénégal, les populations victimes de l'avancée de la mer vivent au quotidien sous la menace des effets néfastes du changement climatique. De notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
À Guédiouaï, dans la banlieue de Dakar, les populations qui vivent près de la mer se sentent de plus en plus menacées par l'avancée de celle-ci. Pour Cheikh Ahmadou Bambambaké, le danger est de plus en plus imminent.
Les risques sont nombreux. Déjà, les filaos qui nous protégeaient contre l'avancée de la mer ne sont plus là. Ils ont été enlevés pour laisser la place à des constructions. En plus, la manière de construire les maisons ne répond pas aux normes et les lotissements aussi ne sont pas bons. Tous ces facteurs impactent sur la nature et à vrai dire, la distribution des terres est vraiment anarchique.
De son côté, Modumbo estime que les efforts et la prise de conscience nécessaires ne sont pas encore faits, malgré les lourdes conséquences qu'entraînent les changements climatiques.
On dirait qu'on fait semblant de ne pas rendre compte, mais ça avance chaque année. Le problème en est qu'on voit des choses qui se passent ici et on fait semblant pour ne rien voir, pour y habiter, pour faire des choses qu'on ne comprend pas. Mais avant qu'on puisse comprendre, ça va faire des conséquences. Les menaces qui pèsent sur nous, c'est très clair et net. Sinon, on va perdre notre maison parce que si ça avance, on n'y peut rien.
On n'a pas besoin d'être expert pour voir l'impact des changements climatiques sur le monde. C'est du moins l'avis d'Adamo Sow. Pour lui, il est temps d'apporter des solutions.
Vu la détérioration de l'environnement et vu comment évolue le système climatique, faudrait envisager le pire pour nous les riverains du littoral. Parce qu'on voit nettement que le climat a nettement changé et évolué de telle sorte qu'il y a une différence entre l'arrivée de la chaleur et un peu une alternance avec le froid. Mais aussi, il faudrait penser au reboisement sur la côte parce que les arbres jouent un rôle essentiel sur le climat. Et essentiellement sur la couche de son aussi.
Pour les Sénégalais riverains de la mer, la conférence de Glasgow est certes importante pour le monde, mais pour eux, l'urgence est de voir comment sauvegarder leur domicile menacé par l'avancée de la mer. Sédina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'environnement et l'avenir de la planète au menu de la COP26 qui se tient à Glasgow. Selon les Nations Unies, l'Afrique est particulièrement vulnérable avec près de 120 millions de personnes qui seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes. Tout ceci alors que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Peut-on encore limiter le réchauffement de la planète? Comment limiter les effets du changement climatique en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Les dirigeants du monde sont ce lundi en Écosse pour la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité. Quel rôle l'Afrique doit-elle jouer dans cette lutte contre le changement climatique? Marius Munga s'est entretenu avec l'économiste Tosim Panupanu, qui est l'un des négociateurs africains dans ces assises.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique. L'Afrique représente environ 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Pourtant, l'Afrique est extrêmement vulnérable face aux effets néfastes du changement climatique. Donc l'Afrique se doit d'aller dans ce forum pour essayer de présenter ses revendications, pour essayer d'argumenter sa position, essayer d'obtenir les moyens pour avoir une juste compensation par rapport à ce qu'elle subit et par rapport aux solutions qu'elle apporte sans pour autant en recevoir une juste contribution. Nous sommes victimes face à un changement climatique que nous n'avons pas créé et nous voulons avoir des moyens pour pouvoir faire face aux effets néfastes de ce changement climatique.
Ça donne l'impression que l'Afrique y va dans une position de victime, n'est-ce pas ?
L'Afrique ne va pas non plus dans une posture de victime. L'Afrique dit c'est un phénomène qui nous affecte nous tous. Nous, pays africains, déjà avec nos propres deniers, nous initions plusieurs actions. Il est important que la communauté internationale puisse prendre le relais pour nous aider à faire encore plus.
On parle également de ce budget de 100 milliards de dollars que les pays riches devaient mettre à disposition des pays africains pour justement lutter contre ce changement climatique, mais on n'y est toujours pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, donc effectivement, la COP15 de Copenhague en 2009, malheureusement, il y a eu la pandémie, malheureusement, il y a eu peut-être un manque de volonté politique de la part des pays développés. En tout cas, un rapport de l'OCDE a été publié au mois de septembre. Et il est établi qu'en 2020, seuls 79 milliards de dollars ont été mobilisés. Et je pense que c'est un signal assez négatif qui a été envoyé à la communauté internationale, parce que cela veut dire que les pays en développement qui prenaient leurs maigres deniers pour investir dans l'action climatique, en sachant que ensuite la communauté internationale allait prendre le relais, ces pays-là se rendent compte que au rendez-vous, les pays développés ne sont pas là. Et donc cela va pousser beaucoup de pays en développement à faire montre de moins d'ambition dans leur action climatique. Et lorsqu'ils voient que les 100 milliards de dollars qui devaient être mobilisés en 2020, ainsi qu'en 2021, en 2022, en 2023, que ces 100 milliards de dollars ne sont pas mobilisés, cela malheureusement fait déchanter plusieurs pays en développement. Et donc il est important que les pays développés puissent véritablement remplir leurs engagements, ce qui va susciter un dépassement, un saut qualitatif de la part de beaucoup de pays en développement.
C'était l'économiste Tosim Panupanu, négociateur pour la RDC sur les questions du climat.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les dirigeants du G20 ont conclu dimanche leur sommet de deux jours à Rome par un accord pour travailler à la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle. Ils se sont engagés à mettre fin au financement des centrales au charbon à l'étranger. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'élimination progressive du charbon au niveau national. La chef de notre bureau à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, voyage avec le président Joe Biden. Elle nous fait le point depuis Rome. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
C'est une tradition romaine à la fontaine de Trevi. Les dirigeants du G20 lancent une pièce pour la chance. Ils en auront besoin pour résoudre les problèmes mondiaux, y compris la menace existentielle du changement climatique. Mario Draghi, premier ministre italien.
Nous sommes confrontés à un choix simple. Nous pouvons agir maintenant ou le regretter plus tard.
Ce regroupement des 19 pays et de l'Union européenne représente plus des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils se sont mis d'accord sur une action significative et efficace pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et se sont engagés à mettre fin au financement des centrales au charbon à l'étranger. Toutefois, ils ne se sont pas entendus sur l'élimination progressive du charbon au niveau national, une déception avant la conférence sur le climat à Glasgow, en Écosse. Alors que Sharma, président de la COP26.
Les dirigeants mondiaux, collectivement, n'ont pas réussi à s'entendre. Oui, nous avons progressé. Oui, nous inclinons la courbe vers 2 degrés, mais nous devons aller plus vite.
Pour atteindre l'objectif de 1,5 degré, les émissions mondiales doivent être réduites de moitié d'ici 2030 et atteindre zéro net d'ici 2050. Mais les plus grands pollueurs du monde n'ont pas pris de nouveaux engagements. Ce que critique le président Joe Biden.
Non seulement la Russie, mais aussi la Chine ne se sont pas fondamentalement manifestés en termes d'engagement pour faire face au changement climatique. Et il y a une raison pour laquelle les gens devraient être déçus.
Les militants du climat se disent sceptiques. C'est le cas de Giacomo Oxori de l'organisation Extinction Rebellion.
Je n'ai aucun espoir dans ce que les dirigeants du G20 font là-bas alors qu'ils sont réunis. C'est juste du blablabla.
En marge, le président Biden a convoqué une réunion pour aborder la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement. La Chine était notamment absente. Biden a évoqué la dépendance mondiale vis-à-vis des produits chinois et appelé à une diversification de la chaîne d'approvisionnement.
Afin que nous ne soyons dépendants d'aucune source unique susceptible de provoquer une panne.
Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu de mettre fin à un différend sur les tarifs de l'acier et de l'aluminium.
Une autre initiative clé pour notre agenda transatlantique renouvelé est tournée vers l'avenir avec les États-Unis.
En pleine tension latente, Biden a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier souhaite acheter des avions de chasse américains F-16 après que Washington a expulsé Ankara du programme d'avions F-35 pour avoir acheté des systèmes de défense aérienne russe S-400. Les États-Unis se retiennent, le Congrès affirmant qu'Ankara se comporte comme un adversaire plutôt que comme un allié de l'OTAN. La plupart des dirigeants du G20 se sont rendus à Glasgow, en Écosse, pour prendre part à la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 2 mois après l'entrée en vigueur d'une loi limitant drastiquement le droit à l'avortement au Texas, la Cour suprême des États-Unis entreprend ce lundi d'examiner le mécanisme juridique controversé de ce texte. Partisans et adversaires de l'avortement ont jeté toute leur force dans cette bataille qui mobilise l'opinion américaine. Pour en parler, Jean-Roger Bion a joint dans le Minnesota l'activiste social Ruben Johannem.
C'est un problème gigantesque parce que si on arrive à approuver ce projet de loi, les gens peuvent toujours s'attaquer, peuvent trouver des moyens pour contourner la Constitution. Parce que cette loi a essayé de mettre des mécanismes en place pour tenir tête à la Constitution. Par exemple, c'est totalement contraire à la Constitution des États-Unis de donner mandat à la population pour pouvoir tenter des actions en justice contre ceux-là qui auraient performé et l'avortement. N'importe qui. Alors, ça devient tout simplement, ça laisse le champ libre à tout le monde de tenter des actions en justice. Jusque-là, ça va s'arrêter. Est-ce qu'on va faire autant ou tiendrait au port d'armes à feu ici aux États-Unis? Et les observateurs ne sont pas bêtes. Ils vont pouvoir suivre l'exemple de Texas pour mettre en pied d'autres projets de loi très controversés.
Mais la Cour suprême s'était refusée dans un premier temps d'intervenir sur la question. Pourquoi s'est-elle saisie du dossier finalement?
La Cour suprême s'est attardée pour se prononcer sur la problématique. Mais finalement, il va falloir aborder la question. On ne peut pas contourner ça à tout jamais. Donc, j'imagine c'est pourquoi qu'ils ont finalement décidé de remettre la question sur la table. Ça ne va pas s'en aller. Donc, il faut bien confronter le problème.
Alors, il y a 6 juges conservateurs, 3 juges libéraux. Est-ce que vous pensez que la Cour est entendue pour les pro-avortements?
C'est là qu'ils supportent le droit de la femme à l'avortement. Bon, c'est généralement les libéraux. Comme j'ai dit, il y a l'effort de l'Église, ce qu'on appelle les evangelicals ici aux États-Unis. Ces gens vont œuvrer jusqu'à la mort pour maintenir, pour punir ceux-là qui choisissent et l'avortement. Donc, c'est des problèmes qu'ils ont gain de cause avec cette cour. Parce qu'ils sont, comme je dis, majoritairement conservateurs.
La prochaine bataille, c'est certainement celle du Mississippi et qui va décider de la jurisprudence sur l'avortement aux États-Unis.
L'avortement.
Quelles seront les implications au plan politique?
Donc, c'est toujours les gens défavorisés, les minorités et la femme. Et la femme, surtout en position défavorisée, qui va subir le choc le plus dans cette affaire. Que ce soit dans le Mississippi ou bien au Texas, ben, le problème est à changer de géographie, mais pas de nom.
C'était Ruben Johannem, activiste social, joint à Minneapolis, dans le Minnesota. fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Maurice, Michel Joseph et Lionel Gaïma. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Thank you.